ain't nah.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Comment vas-tu?
Ça va bien et
ça
toi?
Va ouais. Deuxième émission autour de Carl Gustav Jung.
Yes.
Ouais, on va... Ouais, dernière émission du mois, hein, il faut
dernière
dire.
Émission du mois d'avril, ouais, parce que c'est un mois un peu bizarre. On a commencé sur un truc, on finit sur un autre,
ouais.
Mais voilà, c'est ça SLP, c'est la liberté.
Je te rejoins, c'est parfait. Ok. On va à nouveau entendre Frédéric Lenoir, parce que finalement, comme tu l'évoquais la semaine dernière, comme vulgarisateur, c'est le meilleur. Ça rime en plus.
Ouais, non, c'est vrai. Hein.
Ouais.
Voilà.
Et du coup, on va rentrer un petit peu plus précisément par thématique dans la théorie jungienne. Dans un premier temps, je te propose, on revient sur ce qu'il appelle le processus d'individuation.
Ouais, ça c'est cool, c'est la base.
C'est central.
Oui, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un tout petit peu plus complexe. En fait, Jung a commencé par faire un travail sur lui-même. Après la rupture avec Freud en 1913, il va faire une sorte de dépression pendant la guerre. Et il va être complètement isolé. Il va passer des nuits entières à méditer, à faire de l'observation de ses pensées, de ses rêves, etc. Et à l'intérieur de ça, il va vivre des expériences extrêmement fortes de transmutation intérieure. Et il va découvrir ensuite... En lisant, en découvrant les traités alchimistes, il va les découvrir d'ailleurs par un traité alchimique taoïste, dont un de ses amis, Richard Wilhelm, qui a traduit le Yiking, lui demandera de faire une introduction et un commentaire. Et à travers l'alchimie taoïste, il va découvrir ensuite l'alchimie médiévale, occidentale et de la Renaissance. Et ça va le passionner parce qu'il va dire au fond, ce que les alchimistes ont cherché à faire avec la matière, c'est ce que j'ai découvert moi dans tout le travail que j'ai fait sur l'esprit. C'est-à-dire la transmutation du plomb en or. On va transformer effectivement la matière pour aller vers cette réalisation d'une matière parfaite, mais en fait ce qu'ils faisaient c'est de la projection de leur esprit, parce qu'en même temps qu'ils faisaient ce travail chimique, ils faisaient un travail sur eux-mêmes qui était la transformation de leur être. Et donc il nous dit, nous avons tous à faire une alchimie intérieure, et cette alchimie intérieure il a appelé le processus d'individuation. C'est-à-dire comment un individu doit devenir pleinement lui-même, doit se réaliser comme individu unique, singulier, au-delà de tous ces conditionnements à la fois psychologiques, par son inconscient, culturels, familiaux, religieux, qui le conditionnent. Et tout ça, c'est le plomb qu'il faut transformer en or pour arriver à être soi-même en se débarrassant de tout ce qui nous encombre, mais en le transformant, sans le nier, en le transmutant. Mmh. Et donc, ce processus d'individuation, après, il en donne beaucoup de clés concrètes, hein, comment faire. Alors, je vais prendre un ou deux exemples, mais vous avez donné l'essentiel, c'est-à-dire le plus important, c'est la réunion des contraires. Il nous dit effectivement, notre conscience, et on est sur Terre pour progresser en conscience. Mmh. C'est-à-dire que notre conscience grandit. Il faut rendre de plus en plus ce qui est inconscient conscient. Et pour cela, il nous dit ce qui nous aide à grandir en conscience, ce sont les polarités. Tous les contraires de l'existence. Le jour, la nuit, le haut, le bas, le bonheur, le malheur, le bien, le mal, etc.
Tous ces contraires. Y compris le féminin et le masculin.
Le féminin et le masculin, tous ces contraires sont là pour qu'on grandisse en conscience. Je vais prendre quelques exemples. On parle beaucoup du bonheur, mais on ne peut pas conscientiser ce que c'est que le bonheur si on n'a pas fait l'expérience du malheur. Quelqu'un qui n'a jamais été malheureux ne pourra pas dire « je suis heureux », c'est pas ce que c'est. Et donc c'est parce que on a découvert le malheur, qu'on peut se dire quand je suis pas malheureux, je suis heureux. C'est le contraste qui nous fait saisir le bonheur. C'est exactement la même chose pour le bien et le mal. On ne conscientise le bien que parce que le mal existe. Si le mal n'existait pas, qu'on n'en faisait pas l'expérience, on ne pourrait pas dire ça c'est le bien. Mmh. On n'aurait aucune conscience du bien. De la même manière qu'on apprécie la lumière du jour parce qu'on connaît la nuit. Et quand l'aube se lève et que le soleil se lève, on dit « Ah, oh, quelle merveille cette lumière !» Mais oui, mais on dit quelle merveille parce qu'il y a la nuit. Oui. Et donc finalement, Jung nous dit, c'est à travers tous ces contrastes de la vie que nous pouvons conscientiser les choses et grandir dans la conscience, dans la compréhension du monde et de nous-mêmes. Et c'est une vérité extrêmement profonde. Du coup, on accepte tout. On ne dit pas bah, « je veux pas de la nuit, je veux pas du malheur, je veux pas de la maladie », parce que sans ça, il n'y aurait pas le contraire. Il n'y aurait pas la joie de vivre, il n'y aurait pas le bonheur, il n'y aurait pas le bien, il n'y aurait pas l'engagement pour le bien. Et donc, c'est pour ça que tout est utile. Et cette prise de conscience que les contraires sont nécessaires pour grandir, eh bien, elle nous fait accepter la vie dans la totalité, de manière inconditionnelle. Et là, on rejoint Nietzsche hein, qui nous dit « je prends tout », parce que si je ne veux pas le mal, la souffrance, etc., mais je n'aurai pas non plus la joie et tout ce qui est le corollaire des opposés.
Alors, ce que je vais faire entendre là, c'est, je le précise, des extraits d'une conversation entre Frédéric Lenoir et une autrice, éditrice qui s'appelle Anne Guesquière. Voilà, juste cool. Pour préciser. Une réaction ?
Une réaction sur le chemin d'individuation, la réunion des contraires et tout ça. Oui, ouais, c'est encore plus complexe que ça, le chemin d'individuation. C'est déjà pas mal, oui. Je trouve, de commencer par là.
Ouais,
l'acceptation des contraires, connaître... c'est intéressant.
C'est le début du chemin. Après, effectivement, on va l'entendre à nouveau et il va rentrer dans d'autres éléments essentiels. La persona, l'anima... L'animus et notre part d'ombre.
La part d'ombre.
On écoute.
Et le faut peut-être dire quand même le but du chemin d'individuation, c'est d'être soi-même, d'être autonome. C'est ça en fait, l'idée.
Tout à fait. Ouais. Se trouver soi.
Se trouver et d'être autonome.
Quoi. Oui. Allez, on écoute deuxième son.
Après, il y a sur justement les masques et les personnages, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est en plus très pratiqué en ce moment dans les stages de constellation ou de systémie. C'est comment je vais débusquer effectivement mes masques et différents personnages qui agissent en moi, qui sont agissants.
Alors, tout à fait. Donc, il utilise la notion pour ça de persona, qui est le masque qu'utilisaient les acteurs de l'Antiquité. On voyait leur masque, mais pas leur visage. Et donc, ce qu'on observait, c'était qu'il y avait le méchant, le riche, le sage, etc. à travers le masque. Et il nous dit, au fond, nous avons tous une persona. C'est-à-dire que nous avons une image sociale que nous entretenons. C'est souvent lié à notre fonction. Alors, il y a le savant qui sait, le pompier qui sauve, l'infirmière bienveillante, le gendarme autoritaire. Enfin, voilà, il y a toutes ces fonctions-là. Mais il dit, faut pas s'identifier à sa fonction. Il ne faut pas s'identifier à sa persona. Il faut savoir que notre être profond parfois colle plus ou moins, mais des fois pas toujours, et dit beaucoup de troubles psychiques viennent du fait qu'on finit par croire qu'on est la persona. Et donc, il est très important d'avoir cette lucidité, ce recul sur cette image qu'on donne aux autres et que les autres attendent de nous. Puis, il y a aussi l'animus et l'anima, c'est-à-dire que il développe cette idée qui est devenue presque populaire, qu'on a une part féminine, les hommes ont une part féminine qu'il appelle l'anima, les femmes ont une part masculine qu'on appelle l'animus, et il nous dit que c'est très important de les identifier et de les intégrer. Alors que souvent, à cause de la culture, surtout à son époque, aujourd'hui c'est moins vrai, mais à son époque, un garçon qui avait une dimension féminine, il fallait le cacher. Oui. Une femme qui avait une dimension masculine, c'était mal vu. Et donc, il nous dit que c'est très important, au contraire, d'admettre ces dimensions-là, parce qu'on est tous tissé de masculin et de féminin, il faut arriver à les faire vivre harmonieusement à l'intérieur de nous.
C'est ça, il rappelle d'ailleurs, vous le dites, dans le couple, en fait, on est quatre, puisqu'en fait, on est doté à chaque fois des deux.
Tout à fait. Et donc, c'est une dimension très moderne, ça, de sa pensée. Mais il y a aussi l'ombre.
Traverser l'ombre.
Tout à fait. C'est le processus d'individuation, c'est un chemin initiatique. Et si vous regardez tous les contes, les légendes, les mythes, etc., dans le chemin initiatique, il y a toujours une épreuve. Il faut traverser, il faut tuer le dragon.
C'est la quête du héros.
C'est la quête du héros, exactement. Et il nous dit la vraie quête du héros, c'est pas tuer le dragon extérieur, ça symbolise en fait l'ombre qu'il faut traverser à l'intérieur de nous.
C'est oui, et d'ailleurs il parle aussi d'ombres positives hein, qui nous font agir. Qui sont alors, quand je parle d'ombres positives, je pense par exemple à nos blessures. On a tous des blessures voilà, originelles, nos fragilités. Nos
voilà, qui peuvent être des forces. Des moteurs. Qui sont des moteurs de l'existence, qui sont et qu'il faut aussi intégrer et ne pas mettre de côté, nier, refouler, mépriser. Et là, il a anticipé toutes ces théories sur la résilience, très popularisée en France par Boris Cyrulnik, c'est-à-dire que nos fragilités sont aussi nos forces. Et nos ombres, il faut les traverser et s'appuyer sur elles pour grandir, les conscientiser. Donc, au fond, tout est bon. Tout est bon, tout est à prendre, tout est à transformer. Simplement, c'est mauvais quand c'est refoulé et quand ça n'est pas conscientisé. Si vous avez des pulsions négatives, on peut tous avoir des pulsions de meurtre ou des choses inavouables, mais ça devient dangereux à partir du moment où ce n'est pas reconnu. Et ça peut agir à notre insu et nous faire passer à l'acte de manière terrible. Alors que si c'est identifié, reconnu, ça peut être transmuté, ça peut être sublimé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rendre conscience ce qui est inconscient.
Ghislain ?
Bah rien, il est cool ce Frédéric Lenoir. On le dira jamais assez. Hein. Ah oui, c'est intéressant. Ouais, tout est formidable en fait. L'idée de s'appuyer sur ses faiblesses, sur ses failles,
ouais.
Pour grandir, c'est vachement intéressant en fait.
Ouais. Particulièrement dans des sociétés aussi normatives que celle dans laquelle on vit.
Non, et puis surtout. Les failles, elles peuvent vraiment nous pourrir la vie quand même. Elles peuvent vraiment nous embêter. Mais quand on a conscience de ces failles, quand on comprend d'où elles viennent, etc., eh ben on peut en faire quelque chose.
Qu'on les accepte.
On peut en faire quelque chose. Et puis surtout, c'est plus elles qui nous dominent forcément.
Oui.
C'est pas elles qui ont toujours le dernier mot sans qu'on sache qu'est-ce qui m'arrive là, pourquoi je dis ça, pourquoi je fais ça, etc. Là, on le sait. Du coup, c'est pas la même façon de vivre les choses, je trouve.
De la même façon que reconnaître sa part d'ombre, les pulsions auxquelles à un moment on peut être sujet, plutôt que de les nier. Les reconnaître et réussir effectivement à les transcender. En tous les cas, il y a quelque chose de très déculpabilisant d'une certaine façon, parce que on est tous sujets à ce type de pulsion. Et tant qu'effectivement on ne l'accepte pas, on ne le reconnaît pas, on est effectivement dans quelque chose qui est de l'ordre du déni, et c'est de là que peuvent surgir. Lui, alors, il parle à un moment que la négation de ce type de pulsion peut te revenir sous la forme de ton destin dans les épreuves auxquelles tu peux être confronté. Et je trouve ça très éclairant en fait.
Très éclairant, oui, et ça peut vraiment te pourrir la vie.
Ouais.
Et de même, on connaît maintenant l'influence de l'esprit sur le corps, et c'est ce qu'il disait la semaine dernière dans une des petites citations là, c'est la maladie, etc., ça ne vient pas tout seul, ça se construit en fait. Et en fait, plus tu mets des choses dans l'inconscient, plus tu refoules, etc., ça finit par pourrir. À un moment donné, ça remonte. Et puis, ça peut être assez dévastateur au niveau corporel, au niveau de la maladie, tu vois. C'est ce qu'il dit aussi, le corps, il exprime des choses. Quoi. Il faut savoir lire les signes, en fait. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui remonte? Et qu'est-ce qu'il est en train de me raconter?
Et ça nécessite une ouverture d'esprit que, malheureusement, aujourd'hui, dans les approches de médecine classique, on n'a pas toujours.
On est une médecine hyper mécaniste, en fait. On est des machines, et encore... Maintenant, on commence à envisager qu'on est des machines globales, c'est-à-dire que le corps, c'est pas juste un puzzle avec des petits bouts à chaque fois qu'on doit traiter séparément, mais que le corps, c'est quelque chose d'un entier. Ça commence tout juste à venir. Donc,
mais il y a un chemin à faire encore.
C'est clair.
Pause musicale,
avec,
à l'issue de la pause, quelques petites citations comme la semaine dernière de Carl Gustav.
Ça fait du bien. Nindi alene ye wasulunga
ni warale ne ma biringamba Warale ne ma biringamba Mokwado yi terafola Mokwado yi miria Aiko kante fo ila wasolo Iri teyeko Aiko kante fo ila Kamere koni foko Aiko kante fo ila Nindo mili labate Annanto wola Kajama namara biringamba Indiale ne biringamba Warale ne ma biringamba Warale ne ma biringamba Adi ale ne warale ne ma wasolo Adi ale ne ye wasolo ngai ni warale ne ma biringamba Adi ale ne biringamba warale ne ma biringamba Mokodo yi terafola Mokodo yi miria Aiko kante fo ila wasolo Iri tegeko Aiko kante fo ila Kamerengo ni foko Aiko kante fo ila Nindo mili labate Anna antola Iko liso ilole Misi diba ilole Koteli ba ilole Anna foro Ako tulonte sebesta wasolo ngono Solunga ini warale ne ma tolunte wo Nindia le ne wasulunga ini warale ama tolunte sa Wasulunga Anye wo wasulo pade yakuma de be wasulo Anye wo wasulo siji yakuma te ba wasulo Na wo wasulo kabaka sa te ba wasulo Anye wo wasulo sanule te ba wasulo Anye wo wasolo fengene te bana wasolo Nena wo wasolo mwa ya kuma de be wasolo Nena wo wasolo ba ja wasolo ngadi Nindi alende ye biringamba ni warale ne ma biringamba
Connaître ta propre obscurité est la meilleure méthode pour surmonter les ténèbres des autres. Tout ce qui nous irrite sur les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Il n'y a pas de conscience sans douleur. Ce que l'on appelle la vie n'est qu'un bref épisode entre deux grands mystères qui n'en font en fait qu'un seul. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui-même. Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste? Eh bien, commence à le faire. Qui t'en empêche? Fais-le en toi et autour de toi. Fais-le avec ceux qui veulent. Fais-le en petit, et il grandira.
C'est beau, ces citations.
Ouais.
Moi, j'aime bien. C'était qui chantait ?
C'était Oumo Sangaré, et c'était en direct de Bamako. C'est bien, hein, ce qu'elle fait. Hein.
Ouais, c'est vachement rigolo.
Enfin, en tous les cas, elle vient de sortir un album, qui s'appelle Timbuktu, et ça c'est le titre d'ouverture, et bah, pour bien commencer une journée, je trouve que c'est parfait.
Ouais,
je
ouais,
l'ai testé en ce moment.
Bon, c'est pour ça que si en forme.
Ouais, ça doit être ça. On continue. Continuons. Avec Carl Gustav, et on va parler de se libérer du collectif, des forces du collectif.
Ok, tout un programme.
Tout un programme.
Alors, pour boucler un peu ce chapitre sur le processus d'individuation, il nous invite aussi à nous libérer des institutions hein, ou des sociétés secrètes. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour bien discerner par soi-même. Ça fait partie pour lui du processus. Et il y a une citation, je ne l'ai pas sous les yeux, très forte justement sur le collectif, la page 203 dans votre livre, où il dit « Il faut peut-être en passer par là, mais à un moment, c'est pareil, le collectif, il faut s'en libérer ».
Tout à fait. Alors, il dit pas qu'il faut pas appartenir à des sociétés secrètes ou à des communautés ou à des institutions religieuses. Il dit simplement, il faut pas que ça soit une béquille. C'est-à-dire qu'on a besoin de partager avec d'autres, mais il faut pas s'appuyer complètement là-dessus. Et donc, il est très important qu'on puisse faire son travail d'individuation, c'est-à-dire faire sa quête personnelle et pas simplement être un mouton dans le troupeau qui suit ce qu'on vous dit de faire. Mm-hmm. Donc, c'est un équilibre à trouver entre l'individu et le collectif qui est très subtil. Et je crois qu'il a tout à fait raison. On a tous besoin de liens, d'appartenance, on se soutient. Mais en même temps, ça ne doit pas nous empêcher de faire un travail personnel qui peut nous amener d'ailleurs à contester certaines choses du collectif, à ne pas adhérer à tout, à garder son esprit critique.
Mais c'est intéressant, je trouve, parce que du coup, en parlant de la société ou des groupes comme un échelon intermédiaire, il appelle aussi au discernement de chacun, à la vigilance et puis aussi à la critique. Et donc ça, c'est...
Tout voilà. À fait. Mmh. Il faut développer son discernement, son esprit critique, comme le disait déjà Spinoza. Et là-dessus, c'est encore une fois un point très, très proche. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que chaque individu arrive à développer un jugement personnel afin de faire ce qui est bon pour lui.
Alors, ça... Je trouve que pareil, c'est très très nécessaire d'entendre ce type de parole, particulièrement je trouve dans voilà pareil les périodes qu'on traverse, où à un moment on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'appartenir à une organisation dans quelque domaine que ce soit, hein, je sais pas une organisation politique, une organisation militante,
une association,
voilà. Une association mon sentiment, c'est que notre action, elle peut être d'autant plus, j'ai utilisé le terme d'efficace ou d'impactante, si on est en capacité justement de pouvoir s'extraire de l'emprise potentielle ou éventuelle d'un collectif. Donc, faire ces allers-retours entre le collectif et soi, c'est vraiment quelque chose qui, en termes d'équilibre et en termes de ressourcement et de renouvellement des actions, me paraît absolument essentiel.
Oui, oui, bien sûr. Et puis surtout, tu apprends comme ça que appartenir à une organisation secrète, une association, etc., c'est parce qu'il y a des valeurs communes ou une action commune, etc.,
ouais.
Mais que tu restes un individu et que tu as, comme il disait à la fin, ton sens critique.
Exactement.
Et que tu t'aperçois que c'est pas parce que t'aimes bien ce qu'ils font, que c'est les mêmes valeurs et tout ça, que tu es d'accord avec tout,
voilà.
En fait.
Mm-hmm.
Et tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout.
Mm-hmm.
Et
que tu es en capacité d'exprimer,
ouais.
Aussi et en droit d'exprimer ces différences-là. Et que c'est ça qui peut être constructif aussi.
Bien sûr. Et ça va un peu à rebours de l'idée générale qui est que, par exemple, quand tu appartiens à un parti politique, tu es d'accord avec tout,
ouais.
Et tu dois tout cautionner.
Exactement.
Tu vois, il n'y a pas de voix discordante qui doit se faire entendre. Si, justement, c'est ça qui est intéressant, les voix discordantes.
Ouais.
C'est ça c'est là où est la richesse.
Exactement. Dernier son que je propose, j'avais envie aussi qu'on aborde, parce que je ne vais pas dire que c'est tabou dans notre société, mais quand même, c'est parfois compliqué d'en parler, la religion, le sacré.
Ouais, et c'est ça qui est vachement intéressant chez Jung.
Exactement, son positionnement par rapport
ouais.
À tout ça. On écoute.
Mais surtout sur la religion, il prône plutôt le retour à l'intériorité.
C'est-à-dire
qu'il dit, la religion occidentale, à la différence de la religion orientale, est entièrement tournée vers l'extérieur. C'est, vous voyez, c'est, on veut convertir les gens, on prêche, on est dans des formes extérieures. Et il nous dit la vraie religion, elle est intérieure, c'est-à-dire c'est la transformation de soi. Et donc il prône pour les religions d'Occident un retour à l'intériorité, à la spiritualité vécue. Il nous dit à quoi ça sert d'aller à la messe, à la synagogue, à la mosquée, si c'est juste pour marquer son appartenance à une communauté et à une vie sociale, c'est pas de la religion. Il dit ça c'est la dimension complètement extérieure de la religion, qui peut être d'ailleurs très négative parce qu'elle peut conduire à toutes les formes de radicalisation, de communautarisme, etc. Il nous dit ce qui est important c'est de découvrir sa dimension intérieure, c'est-à-dire vivre une expérience du sacré. Et c'est pour ça que lui-même disait que l'âme humaine, la psyché humaine est naturellement religieuse. Elle aspire à rencontrer le sacré, à faire une expérience de transcendance, à faire une expérience d'éveil. Et simplement, il faut, lorsqu'on est trop tourné vers l'extérieur et vers la dimension sociale de la religion, ben on oublie cette dimension intérieure transformante qui devrait être le cœur de toute expérience religieuse.
D'ailleurs, il dit que le refoulement de cette fonction est l'un des plus grands drames de l'homme moderne, et lui-même fait graver, vous le dites, en latin sur l'linteau de sa porte, qu'on le veuille ou non, la question du divin s'impose. Et donc, il y a ce terme qui est vraiment très associé à Jung, qui est ce terme de lumineux, vous l'avez dit à l'instant, c'est vraiment cette expérience intérieure du sacré.
Oui, alors le terme de lumineux, Jung l'a utilisé, mais il ne l'a pas inventé. Ouais. C'est Rudolf Otto qui est un philosophe de la religion allemande du début du XXe siècle, qui a écrit un livre sur le sacré, dont il parle du lumineux, c'est-à-dire de cette dimension propre à la psyché humaine, qui lui fait vivre une expérience de transcendance, une expérience, on pourrait dire, de type mystique, qui est universelle. Il dit, dans toutes les cultures, depuis toujours, on voit des traces de cette expérience que peut faire tout être humain. Et cette expérience du lumineux qui le bouleverse, on pourrait dire l'expérience mystique, mais par exemple, quelqu'un comme André Comte-Sponville, qui est un philosophe rationaliste, matérialiste, a écrit souvent qu'il avait fait une expérience du lumineux. C'est-à-dire, il dit, une fois, je me suis retrouvé dans la nature, en pleine forêt, et j'ai fait une expérience mystique dans laquelle j'ai l'impression de ne plus faire qu'un avec le monde, avec la nature, mon ego a disparu et j'ai vécu une expérience d'amour, d'unité, de simplicité. C'est typiquement une expérience du lumineux. Et donc on peut la faire de manière totalement laïque, en dehors de toute référence religieuse. Et donc Jung reprend cette idée du lumineux, parce qu'il le découvre lui-même à l'intérieur de sa vie intérieure, et il nous dit cette expérience du lumineux, c'est la rencontre avec quelque chose qui nous dépasse, qui nous fait grandir, qui nous émeut, qui nous bouleverse, et que les religions après ont nommé de plein de manières, l'éveil, Dieu, etc. Et donc, il réhabilite cette expérience-là face à Freud, puisque Freud n'y croyait pas du tout. Et Freud nous dit non, ce qu'on appelle le lumineux, etc., c'est juste un désemparement, une angoisse existentielle qui fait qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose de mystique pour dépasser la peur de la mort. Et donc là-dessus, il y a un grand différent entre Freud et Jung. Et quand je dis Freud, il y a aussi toute la psychologie matérialiste qui a suivi Freud, et psychiatrique, et qui considère que les expériences spirituelles ou mystiques sont des pathologies. Alors que Jung réhabilite ça en disant c'est une expérience fondamentalement humaine, c'est inscrit dans la psyché humaine, et donc il ne faut pas le discréditer, mais le comprendre et même l'accompagner, puisqu'il a observé que les gens qui vivaient ces expériences intérieures se portaient beaucoup mieux que les autres. Il nous dit avoir une vie spirituelle, avoir une vie symbolique, ça nous aide à vivre. Donner du sens à sa vie, ça nous aide à vivre.
Alors il va nous rester même pas deux minutes pour conclure, alors qu'il y aurait sans doute pas mal de choses à dire.
Bah, la dernière phrase, elle est assez chouette, je crois.
Ouais.
Donner du sens à sa vie, ça nous aide à vivre.
Ouais. Et alors, les expériences lumineuses, j'adore ce terme, en fait, que j'ai redécouvert en écoutant l'interview. Je pense que finalement, on a tous plus ou moins fait l'expérience, sans forcément l'identifier, ou voire même peut-être en les occultant ou en les niant. Et je pense que c'est très important de savoir les reconnaître, parce que c'est aussi ce qui nous rattache à cette dimension, on va dire, transcendante qu'il peut y avoir en chacun de nous.
Oui, bien sûr. Mais on le disait là quand on parlait de l'art au début du mois, que en fait, c'est comme si l'être humain, il avait toujours eu... Il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand, quoi, et que qu'il avait connu à un moment donné, qu'il essaye de retrouver par plein de moyens, et l'art notamment peut être un moyen d'y accéder.
Bah voilà, la boucle est bouclée.
Finalement, on est cohérent.
Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, on se retrouve le mois prochain.
tu es sage, on va recommencer.
Je raconte une histoire d'amour. Au printemps, un rossignol se pose sur un cerisier. Le cerisier dit au rossignol « Ouvre tes bourgeons, fleuris avec moi. » Le rossignol dit au cerisier « Ouvre tes ailes, vole avec moi. »
Ils sont bien partis, tes mecs. Tous les paumés qui se marient sont pareils. Tous aussi bien assortis. Casserole, cheval, poisson, raton, doigts de pied, bigoudi. Et chacun des deux pense qu'à friser l'autre ou à le faire entrer dans sa godasse.
Je raconte la fin de l'histoire. Alors le rossignol ouvrit ses bourgeons et fleurit. Et le cerisier ouvrit ses ailes et s'envola en apportant le rossignol.
Et qu'est-ce que c'est ? Une fable ?
C'est l'amour.
Au revoir.